On a souvent dit, et à juste titre, que vivre chrétiennement est chose bien difficile dans notre monde moderne. Tant de choses semblent mettre un obstacle entre notre désir de servir Dieu et l'accomplissement de ce désir. Tant de choses semblent se dresser comme un mur impénétrable entre nous et Dieu. L'esprit est souvent bien disposé, mais pour qu'une vie s'épanouisse pleinement, il faut que cette bonne volonté puisse se transformer en action, sous peine de perdre sa vitalité et sa force créatrice. C'est malheureusement là le défaut de notre cuirasse, si cuirasse il y a. Nous sommes pour la plupart des velléitaires qui arrivent péniblement au stade de la volonté, laquelle est encore bien loin de l'action. Nous sommes, autrement dit, dans cette catégorie que notre Seigneur a démasquée en disant « Ils disent et ils ne font pas ». Il faut reconnaître que tout cela est vrai. Notre bonne volonté est sapée, minée et réduite à l'impuissance par les bruits de notre monde, par les couleurs de notre siècle, ses lumières, sa vitesse, son confort. En un mot, l'orgueil de la vie et la convoitise des yeux, selon la formule de l'apôtre Jean. On n'a pas tort de dire que le chemin qui mène à l'enfer est encombré de gens remplis de bonne volonté. Nous ne voulons pas impliquer que nous sommes sans force devant ces influences. Le monde et ses attraits constituent bien une tentation qui nous détourne de la vraie voie, mais la parole de Dieu nous assure, sur un ton formel, qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. De sorte que si nous succombons, nous n'avons pas le droit de dire « c'était plus fort que moi ». Cependant, arrivé à un certain point, à force de capituler, nous n'avons même plus d'énergie spirituelle à opposer à la tentation. Nous lui ouvrons tout grand les portails de la forteresse que devrait être notre âme. Et l'ennemi envahit sans aucune difficulté tous les aspects de notre personnalité. Alors c'est le découragement, le doute et l'indifférence religieuse. C'est ce que la Bible appelle succomber à la tentation et donner accès au diable. Nous avons tous déjà subi les assauts de la tentation et nous sommes tous déjà passés par l'amère expérience de la capitulation. Nous pouvons donc tous constater que la tentation peut prendre des aspects bien variés, souvent inattendus, toujours apparemment inoffensifs. Nous nous sommes aperçus aussi, si nous sommes restés spirituellement éveillés et soucieux de notre salut, que nous étions très vulnérables à la tentation, parce que insuffisamment armés. Mais avant d'aborder le chapitre des armes à employer contre l'ennemi, examinons de plus près l'ennemi et ses tactiques. Or, cet ennemi, c'est Satan. Parler de Satan, le diable, à notre société moderne, c'est s'attirer des sourires moqueurs. L'ignorance des hommes le relègue au rang des esprits imaginés pour les mythologies. Ni Dieu, ni diable, telle semble être la philosophie d'innombrables personnes. Mais quelles que soient les opinions des moqueurs, Satan n'en est pas moins un personnage biblique aussi réel que le Christ. Ce n'est ni une influence, ni une idée, c'est une véritable personnalité que la Bible désigne de différentes manières. C'est le prince des démons, le malin, qui vint tenter le Christ. C'est aussi et surtout le séducteur, ou simplement le tentateur. L'apôtre Pierre met les chrétiens en garde contre l'adversaire, le diable, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Lorsque Jésus parle de ce personnage, il le désigne en des termes qui font sentir sa damnation et sa terrible proximité. C'est aux Juifs incrédules qu'il dit « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Oui, le démon est une terrible réalité, d'autant plus terrible qu'on ne soupçonne pas sa présence. C'est lui qui enlève la semence que le semeur a semée pour qu'elle n'ait pas le temps de porter du fruit. C'est lui qui suscite des haines, les colères, les jalousies, les guerres. C'est lui qui dresse deux frères l'un contre l'autre. C'est lui qui nourrit l'orgueil des hommes. C'est lui qui sème la division et le découragement. Ne nous étonnons donc pas si le Christ l'appelle le prince de ce monde. Venons-en maintenant aux méthodes employées par le tentateur. Nous avons remarqué tout à l'heure que la tentation prend des aspects différents, variés, selon les circonstances de notre vie, et aussi selon l'individu. Elle prend surtout une apparence inoffensive et anodine. Sommes-nous ambitieux ? Dans ce cas, nous aurons bien du mal à ne pas utiliser tous les moyens, même les plus déloyaux et ceux qui ne sont pas tout à fait honnêtes, pour arriver au succès. Recherchons-nous la perfection en toutes choses ? Alors, il nous faudra résister à la tentation de nous montrer trop exigeants à l'égard des autres comme de nous-mêmes. Si nous sommes attirés par les choses simples, il nous faudra veiller à ne pas nous croire humbles. L'humilité est précisément cette qualité qui fait défaut à ceux qui se croient humbles. Il n'est signe plus grand d'un orgueil invétéré que de se croire suffisamment humble. Si nous subissons une épreuve particulièrement pénible, elle nous fournit l'occasion de nous élever vers Dieu, mais elle comporte aussi le danger de rébellion. En fait, pouvons-nous constater, ce sont nos points faibles qui sont les plus éprouvés, et généralement, nos points faibles sont ceux que nous nous imaginons les plus forts. C'est le cas classique que nous venons d'évoquer de cet homme qui, se croyant humble, s'enorgueillissait en réalité d'une humilité qu'il ne possédait pas. Le docteur Blanton, qui a exercé la psychiatrie pendant plus de 40 ans, remarque très justement dans un article récent que la tentation la plus insidieuse et la plus destructive consiste surtout à excuser nos faiblesses et nos chutes. Il considère cette méthode qui nous est chère comme le plus grand anesthésique que l'on emploie pour endormir sa conscience. C'est ainsi qu'invariablement, devant les petites tentations journalières, la même excuse revient. Tout le monde le fait, ou tout le monde le dit, ou tout le monde le pense, et ce tout le monde a bon dos. On ne le connaît même pas, mais si tout le monde y va, alors pourquoi pas moi, même en enfer. L'œuvre du tentateur est un chef-d'œuvre de psychologie et de patience. J'ai peut-être tous les défauts, même les plus immondes, pourrait nous dire Satan. Mais il y a sur mon visage maudit la trace d'au moins une vertu, c'est la patience. Il assiège en effet chacun de nous selon nos faiblesses. Ses méthodes ne sont jamais brutales ni intempestives. Elles correspondent toujours à nos faiblesses. C'est pourquoi la Bible nous parle des ruses du séducteur. Toutefois, il faut se souvenir que Dieu ne permet pas à Satan de nous tenter au-delà de nos forces. Et il fournit toujours une issue de secours, un moyen de supporter l'épreuve. L'apôtre Jacques décrit d'une manière terriblement vivante et vraie l'évolution du péché à partir d'une tentation. Il commence par dire « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. » Et il ajoute « Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Nous ne devons pas sous-estimer la puissance du malin. Il suffit de considérer l'état chaotique de notre monde, dont les nations sont dressées les unes contre les autres, dans un climat de tension et de suspicion haineuse. Il suffit de jeter un coup d'œil à nos arsenaux qui regorgent d'armes qui ont coûté des sommes fabuleuses, alors que des millions d'hommes meurent de faim chaque jour parce que des millions d'autres gaspillent en préparant la guerre, et on se fera une idée de la puissance du prince de ce monde. Tous les jours de notre vie, nous nous trouvons à la croisée des chemins. Il faut choisir. La mauvaise voie est toujours celle qui paraît la plus facile, la plus attrayante. Elle est si pleine de promesses et toute pavée de bonnes excuses. Il faut faire un réel effort pour ne pas nous y engager. C'est ce que la Bible appelle le bon combat. L'autre voie est de loin moins intéressante. C'est la route du renoncement à ma volonté, à certains plaisirs, à certains contacts. C'est le chemin du sacrifice. Ainsi, chaque fois qu'un choix s'impose dans notre vie, la tentation fait son apparition. C'est pourquoi il faut demeurer spirituellement lucide. Nous pouvons dire que notre bonheur ou notre malheur dépend en grande partie des armes dont nous disposons pour dominer la tentation, au lieu de nous laisser dominer par elle. Car tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Il faut d'abord apprendre à reconnaître notre vulnérabilité, c'est-à-dire nos faiblesses réelles. Le problème est de les comprendre et de les maîtriser. Un proverbe chinois nous dit pertinemment, « Vous ne pouvez empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. » Enfin, il faut surtout faire intervenir la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit, la source de la vraie foi, l'aliment indispensable de notre âme. Aussi vais-je clore ces quelques remarques en lisant avec vous un extrait de la lettre de Paul aux Éphésiens. Chapitre 6, à partir du verset 10. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints.